es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si ce pas. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur. C'est ça la médecine. Je veux faire la guillotine.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, c'est l'Entonnoir, émission consacrée à la critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors, pour nous appeler pendant les plages musicales, lorsqu'il y en a, c'est au 01 43 71 89 40. On peut nous écrire aussi pour échanger avec l'émission. À la librairie du Monde Libertaire, émission L'Entonnoir, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Alors aujourd'hui, on va au sommaire de la critique de la psychiatrie. Le plus gros de l'émission sera consacré à la lecture de quelques textes de personnes concernées autour de la psychophobie. Voilà, qu'est-ce que la psychophobie ? Eh bien voilà, nous allons en avoir une définition à travers ces textes, c'est de petits textes rassemblés dans une brochure, dont je ne vais pas tous les lire bien sûr, mais une brochure qui est donc réalisée par Automédia Toulouse en septembre 2016. Mais juste avant, eh bien, il y a deux petites annonces, enfin deux, c'est pas des petites annonces, non, ce sont des articles, enfin des news, quoi, des nouvelles, voilà, des nouvelles de l'actualité. D'abord, on a trouvé aujourd'hui, dans le 20 minutes d'aujourd'hui, du 19 avril 2023, un article, un remède de psychotope. Le principe actif de certains champignons hallucinogènes permettrait de soigner des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété ou les addictions. Alors voilà, une innovation technique pour la psychothérapie. C'est donc dans le 20 minutes, un article de Lise Aboumansour. Les psychotropes. Alors, les champignons en thérapie et ou quand planer soigne, les psychotropes pourraient soigner de nombreux troubles psychiques comme la dépression ou l'addiction. Alors, déjà, l'addiction, première parenthèse, effectivement, en tant que palliatif, peut-être, ça peut donner des résultats. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialisé dans ces domaines. Je commence la lecture de l'article. LSD, ecstasy, champignons hallucinogènes, pour vous, ce sont sûrement des drogues. Mais pour certaines personnes souffrant de troubles psychiques, c'est un traitement. Prisé dès les années 1960 par des communautés hippies, les substances psychédéliques font désormais leur entrée dans les hôpitaux. La thérapie assistée par psychédélique, au pluriel, est aujourd'hui légale en Suisse, au Canada ou dans l'État américain de l'Oregon. Bien que classés comme des « drogues » depuis 1971, ces produits permettraient de soigner de nombreuses maladies psychiques comme la dépression, l'anxiété, les addictions ou le stress post-traumatique. La thérapie assistée par psychédélique consiste à prendre une dose de substances psychotropes, du LSD, de l'ecstasy ou de la psilocybine, le principe actif de certains champignons hallucinogènes, sous le contrôle d'au moins un soignant à l'hôpital. Contrairement à un traitement antidépresseur devant être pris quotidiennement sur plusieurs mois, une seule dose de substance hallucinogène suffirait à diminuer considérablement et durablement les symptômes. Alors là, j'ose une première parenthèse. Donc le mot drogue qui est utilisé ici. Oui, il faudrait peut-être rappeler déjà que peut-être on pourrait classifier comme drogue, comme étant une drogue, les médicaments psychiatriques, comme les neuroleptiques, peut-être. Non. Voilà. Et aussi relever leur dangerosité possible, ou en tout cas leur action sur la santé qui n'est pas toujours très très bonne. Voilà. J'en ajouterai une couche tout à l'heure, c'est que déjà on voit que les hippies, comme ils disent, et toutes les personnes qui font usage de ces substances psychédéliques de manière, comme on dit, récréative, avaient bien compris que ces produits pouvaient leur faire du bien dans les moments difficiles. C'est découvert maintenant par la science. C'est une bonne nouvelle. Alors, je continue. Des résultats très prometteurs. De nombreuses études viennent attester l'efficacité de ces thérapies. L'une d'entre elles, réalisée en 2022 sur 230 personnes et publiée dans le New England Journal of Medicine, montre l'efficacité de la psilocybine dans le traitement de la dépression résistante. Des résultats scientifiques sont extrêmement prometteurs. Les résultats, se réjouit Lucie Berkovitch, psychiatre et chercheuse en neurosciences. Les patients se sentent tout de suite mieux après avoir ingéré la substance psychédélique. Les effets seraient durables. Les résultats semblent positifs, mais on est encore au tout début. Nuance Zoé Dubus, historienne de la médecine et autrice d'une thèse sur l'utilisation de psychotropes en médecine. Les études ne sont pas encore assez nombreuses et elles n'ont pas été réalisées que par de petits panels de patients. Fin de citation. Comment expliquer cette efficacité ? Autre citation. Ces molécules permettent au cerveau de créer de nouvelles connexions entre les neurones, explique Federico Serragnoli, docteur suisse en psychologie qui réalise des thérapies assistées par psychédéliques. Ces substances permettent aussi de jouer sur la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué notamment dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Voilà, ça c'est un refrain qu'on entend souvent, la sérotonine, la recapture de la sérotonine, qui pourrait expliquer tout en fait. Je continue. L'explication n'est pas seulement neuronale, mais aussi psychologique. La thérapie sous psychédélique est avant tout une thérapie qui se passe en trois séances. La première pour interroger le patient et potentiellement l'exclure de la thérapie. La seconde pour prendre la substance de manière supervisée. La dernière pour travailler ce qui a émergé lors de l'expérience psychédélique. La substance permet d'amplifier l'efficacité de la psychothérapie, résume Federico Serragnoli. Elle crée un effet de conscience modifié qui n'est pas atteignable sans substance. Quoique on a peut-être connaissance de certaines expériences respiratoires, d'exercices respiratoires qui peuvent faire accéder à certains, à modifier la conscience. Mais en général, en effet, un produit est nécessaire si l'on veut trouver un effet de conscience modifié. Si l'on prend une dose vraiment forte, on peut perdre la notion de la réalité. Mais avec les doses que nous donnons, ça ne peut pas vraiment arriver. Les personnes sont aussi préparées avant et supervisées pendant. Si elles se sentent mal, elles peuvent faire appel aux soignants. Fin de citation. Si la France a pris du retard sur ce type de thérapie, des tests cliniques devraient bientôt voir le jour. Lucie Berkovitch supervisera bientôt plusieurs d'entre eux à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Donc ça vient en France. Et aussi, c'est donc quelque part aussi une récupération de, par la médecine, hein, de cet usage des psychotropes hallucinants ou hallucinatoires ou hallucinogènes, je ne sais pas. Et donc départ de marché aussi, bien sûr. Voilà. Et puis ça permet de mieux contrôler cet usage. Et maintenant, une autre info. Après une petite virgule musicale. Oui, alors, un film, alors c'est cette information qui m'a été transmise par Albert, salut à toi Albert, un film qui vient de sortir, c'est, c'est, comment ça s'appelle déjà, L'Adamant, alors qui a eu un ours d'or à la Berlinale. Et oui, c'est un film de Nicolas Philibert, qui a lui a réalisé une vingtaine de films, dont La Moindre des Choses, un film qui avait été tourné à la clinique de la Borde. Et donc là, il est question d'un film avec l'Adamant, il est question d'un film autour d'un centre psychiatrique. À bord d'une péniche sur la Seine. Alors, c'est Linda de Zitter qui est à l'origine, dès 2002, de ce projet, l'Adamant, péniche sur la Seine, mais surtout centre psychiatrique, sur le modèle de la psychothérapie institutionnelle, et qui a ouvert ses portes en 2010. Et qui comprend des ateliers thérapeutiques, peinture, écoute musicale, danse. Et donc, ce film est une immersion dans ce milieu, sur cette péniche, avec évidemment de nombreux moments d'espace, d'expression des personnes concernées, ce qui est toujours bien. Alors, pour le définir, il s'est dit beaucoup de choses, ce lieu, mais aussi c'est un lieu qui n'a rien à cacher. Et interviewé sur Arte dans l'émission 28 minutes, Linda Desiter répond par rapport à c'est un lieu qui n'a rien à cacher, ça veut dire quoi? Eh bien, elle répond que, en tout cas, c'est un lieu ouvert sur le monde quand la psychiatrie se trouve recluse en des lieux indignes. Ici, on fait entrer l'extérieur, la preuve, on accueille un cinéaste. Des personnes qui parfois vivent leur monde interne comme un enfer ne sont pas objectivées dans cet endroit-là, comme ils le sont en psychiatrie conventionnelle. Ils peuvent participer à la vie quotidienne, être acteurs, être un peu plus sujets de leur vie, de leur trajectoire. Voilà. Alors, à l'heure où la situation psychiatrique est qualifiée d'effondrement, hein, c'est aussi la destruction méthodique du service public, hein, qui est en jeu. 60% des lits fermés entre 1976 et 2016, 30% de postes non fournis, et moins un tiers de pédopsychiatres dans cette période. La psychiatrie suscite peu de vocations, apparemment. Alors, on écoute encore un petit extrait, mais très court, de cette émission 28 minutes sur Arte, qui a été hier.
Je crois que comme vous voyez là, dans ce lieu-là, l'Adamant, vraiment un travail psychiatrique digne de ce nom est un travail forcément à contre-courant des dictats de l'époque, donc de la performance, du chiffre, de la rentabilité. Ouais. Et pour rendre la marge habitable, il faut s'y prendre par les entours, ouais, par des détours. Donc.
Prendre le temps.
Et ça demande du personnel, ça demande vraiment beaucoup de temps, de créativité, de pouvoir proposer une multitude d'échanges, d'occasions de rencontres pour que quelque chose puisse avoir lieu. Mm-hmm. Et ça, c'est un peu déconsidéré. Une certaine vision de l'humain est déconsidérée. Vous êtes censé être l'auto-entrepreneur de votre propre santé. Ouais, quand ça ne va pas bien, ben voilà, vous êtes responsable, etc. C'est un tout petit peu différent. Donc c'est une politique de la santé qui est en œuvre depuis très longtemps, qui a provoqué la catastrophe parce qu'elle a eu lieu. Ouais. Et maintenant, on est vraiment dans l'effondrement.
Et précisément, Nicolas Philibert, vous avez eu un échange avec la slameuse 13 dans Télérama, c'était la semaine dernière, qui a été prise en charge pendant de nombreuses années pour des troubles psychiatriques, et qui vous a dit, le film est merveilleux, le problème, c'est qu'on risque de croire que tous les établissements psychiatriques sont à l'image de ce film, or, c'est une exception.
Mais je ne crois pas qu'on puisse faire la confusion, parce qu'on lit tellement de choses, on sait, les médias nous informent, il y a des manifestations, on entend beaucoup, il y a des livres qui racontent la dévastation dont la psychiatrie est victime. Donc, j'ai choisi, en effet, un lieu qui est plutôt une réussite, qui est attractif, etc. Ouais. Mais je crois que les gens sont pas... Je pense que on sait que c'est un lieu qui prend des risques, que c'est un lieu qui résiste.
Et c'est un lieu de résistance, c'est bien résumé.
On sait qu'il n'est pas représentatif, les gens savent.
Hélas. En tout cas, votre documentaire, à tous les deux, je peux presque dire à tous les deux, puisque vous êtes ô combien participante, vous êtes membre de l'équipage de l'Adamant, sort dans toutes les meilleures salles de France. Merci.
Linda de Zitter et Nicolas Philibert. Voilà. Mais alors, petit commentaire. Oui, est-ce que cet effondrement de la psychiatrie n'est pas finalement quelque chose d'un peu positif, puisque c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui disparaît? Voilà, la question est posée. Je vais passer maintenant à la lecture d'une brochure, donc d'extrait d'une brochure. Qu'est-ce que la psychophobie ? Introduction. Salut, j'ai découvert très récemment le concept de psychophobie et ça a été pour moi une révélation. Je me suis aussi rendu compte à quel point il était peu connu. C'est pourquoi j'ai décidé de partager ces quelques textes qui m'ont moi-même permis d'aborder ou d'approfondir le sujet. Mettre un mot sur un vécu d'exploitation et d'oppression, ça peut être un pas vers la lutte et l'émancipation. Voilà, donc... Il y a des textes signés et il y a des textes anonymes. Mais là, je vais juste lire un petit texte. La page 8. Voilà. Non, un peu plus loin. Voilà. Psychophobie en garde à vue. Récit de ma visite chez un médecin lors de ma garde à vue. Anonyme. Publié le 20 juin 2016 par Zinzinzine. Contenu sensible, description de violences policières, psychophobe. Le soir de la manif du mardi 14 juin contre la loi travail, on était en 2016, alors qu'on allait boire un coup avec un ami, nous sommes interpellés par des flics dans le quartier de Belleville tandis qu'une manifestation sauvage venait de se terminer non loin de nous. Le motif de contrôle est notre apparence vestimentaire supposée typique de certains anarchistes. Nous subissons alors un contrôle d'identité et une fouille de nos sacs. étant donné que nous avions à l'intérieur de ces derniers caouet noir, masque de peinture FFP3, lunettes de bricolage, matériel nécessaire selon nous pour se protéger des gaz lacrymogènes et autres armes de la police lors des manifestations actuelles. Cela est retenu comme motif suffisant pour nous placer en garde à vue. Le motif policier, regroupement en vue de commettre des dégradations. Le dossier sera finalement clos et il n'y aura rien de plus. Étant donné que j'ai des anxiolytiques sur moi, sans avoir l'ordonnance, et que je voudrais les prendre si nécessaire, je demande à voir un docteur, espérant qu'il ou elle pourra me permettre d'en prendre un ou deux si je suis pris de crise d'angoisse. Je passe la nuit dans la cellule. Ce n'est que le lendemain matin que je suis donc emmené chez un médecin en voiture. Le déplacement se fait les menottes au poignet, les keufs font la course à travers les rues, se félicitent d'un dérapage sur deux roues qui ne paraissait pourtant pas contrôlé, profitent du fait d'avoir croisé un musulman portant un camis pour sortir quelques remarques racistes. Bref, on arrive finalement à destination. Je vois donc le médecin, l'échange reconstitué comme je peux d'après mes souvenirs se passe à peu près comme ça. « Tu as quel âge ?»« 19 ans. »« 19 ans et déjà en prison. »« Ah, bravo !» L'ambiance est posée. Moi qui comptais voir une présence plus rassurante que celle des policiers, c'est raté. Prise de ma tension très basse, sûrement due à mon petit déjeuner en garde à vue se résumant à 2 sablés et 20 centilitres de jus d'orange. J'explique. Du coup, j'ai décidé de venir vous voir car j'ai des anxiolytiques avec moi et j'en prends quand je stresse beaucoup, quand je fais des crises d'angoisse qui se manifestent notamment par de violents spasmes musculaires. J'ai commencé à en prendre lors de mon premier burn-out en décembre. Il me coupe la parole. « Un burn-out ? Tu fais quoi comme étude ? Je suis aux Beaux-Arts. »« T'es aux Beaux-Arts et tu fais un burn-out ? » Ça semblait plus la musique qu'autre chose. Oui, on est plusieurs étudiants et étudiantes. Dans ce cas, on se retrouve souvent avec beaucoup de travail à faire sur une période très courte. C'est difficile de tenir le coup pour certains et certains d'entre nous. « Bah, faudrait peut-être travailler au lieu de manifester. Et puis heureusement que t'es pas en médecine. » Non seulement faire un burn-out aux Beaux-Arts est impossible, mais manifester n'est visiblement pas légitime. J'essaie de recentrer la discussion sur mes médocs. Mais du coup, dans un milieu aussi anxiogène et fermé qu'une cellule de garde à vue, où on n'a pas l'heure, où on est totalement isolé, sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans voir l'extérieur, j'ai peur que ça se passe mal. Si je fais une crise, je pourrais prendre un anxiolytique sur le moment ? Non. Mais c'est vraiment la seule solution pour que je me calme. Soit tu seras emmené ici, soit les pompiers devront être appelés. Il semble donc que quelque chose d'aussi spontané et violent que les crises de panique peuvent bien attendre l'arrivée des pompiers ou de faire tout un trajet menotté en voiture. Je n'ai pas le temps de répondre qu'il est en train de prendre un comprimé, de me le tendre et de me dire de l'avaler. Non, mais je ne veux pas prendre d'anxiolytique là. Ah bon ? Ben non, je les prends sur le moment, c'est quand j'ai des crises, quand je stresse vraiment, et là ce n'est pas le cas, mais je sais que ça peut arriver dans la cellule. Tu le prends maintenant, le temps que ça fasse effet, ça te détendra pendant un certain temps. D'accord, et si je fais une crise, je ne pourrais vraiment pas en prendre sur le coup ? Non. Ah. J'ai donc été forcé à prendre un comprimé d'anxiolytique alors que je n'en avais pas envie, que je n'en avais pas besoin, tout en étant interdit d'en prendre quand je l'aurais utilisé. Heureusement que je n'ai pas fait de crise, j'ai été libéré 7-8 heures après ma visite. Ainsi, malgré le fait de passer 20 heures tout seul dans une cellule toute blanche de 5 mètres sur 2 mètres, sans aucun contact humain, avec une caméra branchée en permanence au-dessus de ta paillasse, avec juste de petites aérations en bas de la porte, sans presque avoir rien à manger, sans avoir le droit d'avoir ses lunettes, sans jamais savoir l'heure qu'il est, sans possibilité de lire, dessiner, écrire, et sachant qu'on peut à tout moment perdre la tête et se mettre à faire une crise d'angoisse, on ne peut pas prendre le médicament adéquat pour se calmer, alors que celui-ci est dans une pièce juste à côté. Il semble qu'il vaut mieux être en possession de son ordonnance, même si ce n'est pas sûr pour autant de pouvoir prendre ce genre de médicament, d'après ce que j'ai cru entendre. Fin de ce témoignage anonyme. Alors, un autre témoignage moins anonyme, celui-là, mais avec un pseudonyme, L'eau, de Laurence. Cyril Hanouna touche pas à ma folie. Alors, donc apparemment, c'est suite à une émission donc qui de télévision qui caricature les patients en psychiatrie, qui les ridiculise à fond, quoi, on peut dire. Alors réponse de cette personne concernée à directement Cyril Hanouna. Salut Cyril, tu permets, je te tutoie, après tout tu appelles tes spectateurs mes chéris, alors je crois qu'on est assez intime pour que je puisse te tutoyer. Permets-moi de te dire que j'ai trouvé ta dernière bande-annonce très drôle. Vraiment, je t'assure, j'ai beaucoup ri de toi. Bon, maintenant que je t'ai expliqué que je me suis allègrement foutu de ta gueule en voyant cette bande-annonce, je pense qu'il serait assez aimable de ma part de t'expliquer pourquoi, n'est-ce pas ? T'as de la chance, je suis quelqu'un de fondamentalement aimable. Ou pas, mais on va faire comme si c'était le cas. Ça va faciliter le contact. Donc, en voyant ta bande-annonce, j'ai ricané bêtement en me demandant si tu t'étais cru original sur ce coup. Se fendre la gueule sur le thème de la folie, c'est pas tellement inédit. C'est même un des grands refrains de la psychophobie. Oui, attends, je sais, j'utilise des mots que tu connais pas et qui sont même pas dans le dico. Alors je t'explique. La psychophobie, c'est l'ensemble des discriminations, des idées reçues, des clichés éculés et autres brimades diverses que vivent les personnes malades psychiques, les fous folles, quoi, dans notre société. Alors ouais, je me suis un peu foutu de toi. Toi qui te présentes souvent comme novateur, qui amène des nouveaux concepts d'émission, tu fonces droit dans un cliché cuit et recuit, tellement recuit qu'il en est immangeable. Bah merde alors, où elle est ton originalité ? Par contre, même si j'ai beaucoup ricané en me foutant de ta poire sur ce coup, il y a un truc qui me fait vachement moins marrer. Eh, attends, je vais te parler de moi 3 secondes. Vite fait, hein. Je fais partie des 1 personne sur 5, selon les statistiques de l'OMS, qui vivent avec des troubles psychiques. Oh, t'inquiète, là je vais bien, j'ai appris à vivre avec, je vais carrément mieux qu'il y a quelques années. Mais avant ça, j'en ai sacrément bavé. J'en ai bavé à cause de mes angoisses, de tout le toutime, mais pas que. J'en ai aussi bavé sacrément parce que je crevais de peur d'être rejeté, qu'on découvre mes marques d'automutilation et qu'on s'éloigne de moi vitesse grand V parce que les fous font peur, qu'on me discrimine à l'embauche à cause de ça, enfin tout ça. Tout ça, c'est la réalité des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Les fous folles sont largement plus souvent victimes de violences diverses, physiques, sexuelles, psychologiques, que les personnes sans troubles psy. C'est comme ça. Et c'est comme ça dans notre société, et c'est bien dégueulasse. Alors ouais, j'avais la trouille. Et dans une certaine mesure, je l'ai toujours cette trouille, parce que le nom de mon trouble fait peur, borderline donc, parce que c'est un de ces trucs dont on dit « c'est à vie ». Même si j'ai appris à vivre avec, même si je sais depuis un bon petit moment assez comment je fonctionne pour pouvoir éviter de partir en vrille. Le dire ouvertement, c'est vraiment s'exposer à pas mal d'emmerdes, à ce qu'on me refuse un boulot quand je voudrais changer de taf, à ce qu'on me refuse un crédit si je veux emprunter de l'argent pour X raisons, tout ça et plein d'autres merdes. C'est ça la psychophobie. Et chaque fois qu'un glandu... Excuse, je suis un peu moins poli pour le coup, mais c'est pour la bonne cause. Puis je crois que tu t'en fous un peu de la politesse, n'est-ce pas, toi qui te vantes tellement, de tellement aimer le politiquement incorrect. Donc, un glandu dans ton genre fait son petit morceau d'humour sur les fous folles. Chaque fois qu'on trouve publiquement tellement fun de se foutre de la gueule des gens en hôpital psy, chaque fois qu'on trouve que c'est tellement rigolo de comparer les gens à des fous pour les ridiculiser, tout ça, eh bien, c'est cette discrimination-là qu'on renforce. Alors ouais, franchement, Cyril, tu as vraiment fait de la merde. Parmi tes spectateurs et spectatrices, il y en a 1 sur 5 qui s'est pris ses clichés dans la gueule comme une paire de baffes. Et encore, je pense que certains et certaines se le seront pris encore bien plus durement que moi, parce que personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir me passer d'hospitalisation, il n'y a pas eu besoin. Mais pour beaucoup, oui, l'hôpital psy, c'est un passage obligé à un moment donné, parce qu'ils ont besoin de soins plus intensifs, ou que l'on peut leur fournir à l'extérieur, qu'on ne peut pas leur fournir à l'extérieur. Enfin bref, comme une autre maladie. Hein. Bon, là je pourrais faire une parenthèse, un passage obligé, parfois même sans le consentement de l'intéressé. Bon, je ferme ma parenthèse. Et l'HP, ce n'est pas un endroit fun. L'HP, c'est beaucoup de souffrances mises côte à côte dans le même bâtiment. L'HP, c'est des fois des soignants chouettes, humains et compétents, mais pas toujours, vraiment pas. L'HP, c'est une privation de liberté qui n'est pas simple à encaisser et qui donne lieu aussi à pas mal d'abus. L'HP, c'est des fois, trop souvent, carrément des maltraitances médicales. L'HP, c'est des fois être contentionné, plus avec une camisole de force, mais sanglé sur un lit, c'est pas mieux. L'HP, c'est aussi souvent beaucoup de solidarité entre les patients et patientes, et ça, personne le dit. Soit on rigole des fous et des folles, soit on a un regard plein de pitié sur eux, mais on n'imagine pas qu'entre eux, les patients et patientes puissent s'entraider, se soutenir. Et pourtant. Enfin bref, l'HP, c'est tout sauf un sujet de blague qui ridiculise les fous et folles. Puis j'ai un autre scoop. La maladie psychique, c'est une maladie. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de faire une bande-annonce service d'oncologie ou service des grands brûlés? Non, hein, parce qu'on rigole pas avec le cancer ou sur les grands brûlés. C'est pas fun comme sujet. C'est pas bien vu d'en rire. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'en rit pas, ça n'a rien de drôle. Alors pourquoi la maladie psychique serait supposée être un sujet de blague? Et tu sais, j'ai encore un autre scoop. Même si aujourd'hui tu es en bonne santé psychique, du moins je suppose, peut-être que demain tu vas faire une grosse dépression. Oui, ça peut arriver absolument à tout le monde, des troubles psychiques. Donc peut-être que demain, ce sera toi qui seras dans un hôpital psychiatrique en train de batailler pour retrouver la santé. Est-ce que tu aurais envie de devenir un sujet de blague? Alors ouais, je sais, comme tu le dis souvent, la télé, c'est que de la télé. Mais il se trouve que la télé, beaucoup de monde la regarde. Et que quand tu véhicules des clichés pareils, d'une part, tu fous une grande baffe dans la gueule à un spectateur et actrice sur cinq, comme j'ai dit tout à l'heure. Et d'autre part, tu renforces les clichés qui font que les quatre spectateurs et actrices restants risquent d'avoir des attitudes discriminatoires envers le premier. Alors la télé, c'est des fois carrément, sacrément dangereux quand ça véhicule des clichés de merde. Allez, je te laisse réfléchir à tout ça. Enfin, j'espère que tu y réfléchiras. L'eau. Voilà, donc pour ce témoignage, enfin disons ce commentaire sur une émission de télévision. Et... Après ce morceau de musique, je vais vous proposer un autre texte. La fragilité neurotypique face aux personnes neuro-atypiques et à leur militantisme, qui sera en quelque sorte la dernière ligne droite des sujets de notre émission. Alors, on va d'ici là écouter AVF de Orelsan, Stromae et Maître Gims.
Allez vous faire toujours les mêmes discours, toujours les mêmes airs. Hollande, Belgique, France, austère, gauche ou libéraux. Avant-centre ou centriste, ça m'est égal. Tous aussi des magots que des artistes.
Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que c'est surprenant qu'on soit mal poli. Donc vas-y, follow ma folie, ma follow, follow me.
Allez vous faire. Allez vous faire.
Censé devenir un jeune garde dynamique. J'ai toujours été qu'un jeune stressé qui panique. C'est marqué sur nos actes de naissance en italique. On a tous un pied dans l'hôpital psychiatrique. La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons. Depuis quand je suis dans les pompes de monsieur tout le monde. La bile dans les oreilles, la fumée dans les poumons. Des moutons, des moutons,
des moutons, des moutons.
Pardonnez mon petit langage.
Oups.
Là j'ai plus de 10 ans d'âge. Les médias font trop de chantage. Vous m'avez pris pour un esclave. Debout c'est l'heure du taf. Faut bien limiter la casse. Demande à Rael San. On va tous finir en cage.
Riche et malheureux, mais heureusement qu'on a l'euro. C'est cool, non, mais si coûteux que l'argent est à couper au couteau. Et ça taffe pour dépenser d'arrache-pied, ça pour que ça marche. Crache, crache et du cash, et se saigne jusqu'à être balafré.
C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi pendant des années sans vous retour qui me renie par rapport au succès. Tu sais bien, la vie sépare, pas la peine d'en faire un fromage de mon petit but qui barre dans les pieds. Car j'ai rien de ces cas, je me casse, on se capte de ces quatre. Allez vous faire foutre, j'ai un match de foot. Allez vous faire.
Scène, allez tous vous faire huer, marcher dans les rues, allez tous vous faire juger, passer sur le billard, allez tous vous faire tuner, signer sur les contrats, allez tous vous faire plumer.
J'allume la télé pour cracher sur des connards que je déteste. J'ai 300 chaînes, pense à la quantité d'insultes que je déverse. On dit que je fais preuve de gentillesse, je fais vraiment preuve de faiblesse. Faudrait leur faire payer leur dette avant que je meure de vieillesse.
Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si sûr.
Un peu démago ou envieux, c'est vrai qu'on est un petit peu des deux. Allez vous faire huer les yeux, longtemps et puis rester en jeu. Un peu démago ou envieux, c'est vrai qu'on est un petit peu des deux.
Allez vous faire.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est toujours l'entonnoir, critique de la psychiatrie. Et je vous lis un nouvel extrait de « Qu'est-ce que la psychophobie ?», une brochure réalisée par Automédia Toulouse en septembre 2016. La fragilité neurotypique face aux personnes neuroatypiques et à leur militantisme. Par Troll de Jardin, 21 août 2016. Il y a un petit site d'ailleurs, trolldejardin.wordpress.com. Alors là, je ne sais pas si ça existe toujours en 2023. Je commence. J'ai eu l'idée de partir de ce sujet après avoir lu cet article sur la fragilité blanche. Cet article a été écrit par une personne elle-même blanche pour parler de toutes les difficultés qu'ont les personnes blanches à entendre parler de racisme. Et pas seulement à entendre, mais à écouter, à en tenir compte. Pour les autres personnes blanches, je vous conseille de lire cet article, je l'ai trouvé instructif sur nos biais et nos mécanismes mentaux racistes. Revenons à nos moutons donc. La grande majorité des personnes neurotypiques, alors neurotypiques ça veut dire des gens qui se considèrent comme normales et qui, voilà, qui se disent d'ailleurs normales. Donc neurotypique, c'est à l'opposé de neuroatypique. La grande majorité donc, des personnes neurotypiques a une fragilité psychologique, d'une part face à la simple présence de personnes neuroatypiques, qui leur inspirent en général des sentiments de peur, de gêne, de malaise, et d'autre part face au militantisme antipsychophobie. J'ai constaté qu'il est souvent compliqué de parler aux gens de psychophobie, en particulier lorsqu'il s'agit de leur psychophobie ou celle de quelqu'un de leur famille, de leurs amis, de leur parti politique, association, star préférée, ou de la psychophobie société, dans la société en général. En outre, il est quasi impossible pour les gens de ne pas développer d'opinions et de réflexes psychophobes. Elles sont véhiculées par la culture, les médias, la classe politique, le monde scientifique et médical, et souvent par notre famille et notre entourage. Quand je dis que tout le monde est psychophobe, je veux parler des neurotypiques, mais aussi des autres d'ailleurs. Par exemple, même des personnes autistes auront grandi en intégrant des stéréotypes sur les personnes trisomiques ou schizophrènes, alors que des personnes schizophrènes, elles, en auront peut-être sur les personnes anorexiques, et ainsi de suite. En général, même quand on est neuroatypique, on développe une tendance à mépriser et craindre les fous. Et bien sûr, ces fous, ce sont toujours les autres. De plus, beaucoup de personnes neuroatypiques intègrent elles-mêmes des opinions psychophobes dirigées contre leur propre groupe et elles-mêmes, haine de soi, clichés, C'est la psychophobie intériorisée. Donc, puisque tout le monde, y compris les personnes victimes de psychophobie, est psychophobe, il n'y a pas de raison que les neurotypiques, ceux qui sont du bon côté de la barrière, ne soient pas psychophobes. Indépendamment du fait que ce soit des personnes bonnes, gentilles, tolérantes ou non, puisque c'est une question de système et de culture qui dépasse les individus en particulier. La psychophobie est en effet un phénomène concernant toute la société et comportant de nombreuses dimensions, violences étatiques, violences interpersonnelles, discrimination professionnelle, scolaire, au loisir, stigmatisation, clichés faussement positifs, exotisation, mise à l'écart, microagression quotidienne, messages culturels négatifs. Voyons maintenant les différents ressorts de la fragilité neurotypique, c'est-à-dire des gens qui se pensent normaux. La peur des fous. C'est l'aspect le plus basique. Cette peur, c'est par exemple la peur et le malaise face à une personne qui parle toute seule ou qui se comporte bizarrement, ou crie parce qu'elle est en crise d'angoisse par exemple, ou à, entre guillemets, un regard de fou. À un niveau plus ou moins, un peu moins basique, c'est l'idée que les fous sont particulièrement dangereux, susceptibles d'agresser et de tuer ou de se suicider en emportant d'autres gens, irresponsables, etc. Les fous sont perçus, le plus souvent à tort, comme un défi à la sécurité des neurotypiques. Et sont un défi à leur confort en les empêchant de se sentir en sécurité. 2. La majorité des personnes neurotypiques a besoin de croire que les actes de violence, notamment les viols, les attentats, sont commis par des fous. Cela leur permet de penser qu'elles-mêmes et leur entourage et les gens qui leur ressemblent en seraient incapables. L'amalgame folie-violence, en outre, permet de ne pas remettre en question, souvent, le racisme, le colonialisme, la violence de classe, le sexisme, l'homophobie et leur rôle dans les actes de violence. Du coup, lorsque les activistes antipsychophobie s'attaquent à cette idée, ils remettent en cause l'innocence et l'absence de responsabilité des neurotypiques, mais aussi des blancs occidentaux, des élites bourgeoises et des hommes cis. Les hommes cis, genre, c'est des hommes qui affirment ne pas avoir être autre chose que des mâles et n'avoir aucune féminité. Voilà. Donc les femmes cis, c'est l'inverse. Voilà. Bon. 3. Beaucoup de neurotypiques ont peur de la contagion, même si c'est une peur absurde. En outre, rencontrer des personnes dépressives, par exemple, leur rappelle que ça pourrait, en théorie, leur arriver. C'est pour cette raison, notamment, qu'il y a un si lourd tabou autour de la dépression que les personnes dépressives sont donc invitées à sourire devant les autres et à souffrir en silence. Sans oublier... c'est une phrase qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. L'égoïsme pur et simple. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Même chose pour le traumatisme, l'anxiété. Bref, l'existence des personnes neuroatypiques remet en cause le confort mental des neurotypiques. 4. La majorité de personnes neurotypiques a besoin de considérer que leur mode de fonctionnement neurologique et mental est le meilleur, et que leur mode de fonctionnement n'implique aucun handicap alors que les autres causent des handicaps. C'est faux puisque, par exemple, les neurotypiques n'ont pas certaines capacités intellectuelles qu'ont les personnes zèbres. Si on prenait les zèbres et non les NT, c'est-à-dire les neurotypiques, comme référence pour mesurer les autres groupes, alors les neurotypiques seraient considérés comme handicapés. Alors... Lorsque nous rappelons que tous les membres les modes de fonctionnement, que ce soit les autistes, les zèbres, les neurotypiques, ont leurs propres avantages et leurs propres handicaps, c'est un défi à la supériorité des neurotypiques. C'est aussi un défi à leur position centrale, leur position de référence. C'est-à-dire au fait de juger les autres groupes selon des critères avantageant les neurotypiques. Ce qui, bien sûr, biaise tout. Beaucoup de neurotypiques ressentent du malaise, de la jalousie, de l'envie par rapport aux personnes zèbres, surefficientes au QI, au potentiel. Une partie même rêve d'être zèbre ou de devenir, ce qui est bien sûr impossible, tout en méprisant souvent paradoxalement les véritables zèbres. C'est l'effet Pétunia. D'après la référence de Pétunia Dursley. Cette jalousie et cette envie viennent du fait que des personnes qui ont d'autres modes de fonctionnement, donc des personnes bizarres, soient perçues comme plus intelligentes globalement. En réalité, les personnes zèbres ne sont pas plus intelligentes en soi, d'ailleurs ça ne veut rien dire d'être plus intelligent que quelqu'un en soi. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elles ont des facultés supérieures dans certains domaines. Par exemple, les personnes surefficientes ont des capacités supérieures de raisonnement en arborescence. Fondamentalement, les zèbres sont, par leur simple existence, perçus comme une menace sur la supériorité et la centralité des neurotypiques. 6. Lorsque nous refusons de rester cantonnés à des rôles sociaux dégradants et restrictifs, la plante verte, la bonne poire, le souffre-douleur, le faire-valoir, la caution tolérance, le singe savant, nous remettons en cause leur domination à un niveau interpersonnel très basique. 7. Lorsque nous refusons de nous plier à leurs codes et attentes sociales, notamment en matière de communication, comme le font les mauvais autistes par exemple, cela les heurte également. Alors, mauvais autistes, évidemment, entre guillemets. Parce que ces codes sociaux, comme la politesse, sont faits pour leurs besoins avant tout. De plus, ils le prennent en général comme une insulte personnelle. Tu as été impoli, insolent avec moi. Tu ne fais pas assez d'efforts pour me faire plaisir. Tu ne nous respectes pas, tu te fous de nos règles. Par contre, nous imposer des règles pas faites pour nous, ça ne les gêne pas. 8. Lorsque des personnes neuroatypiques se battent contre le pouvoir des médecins, des professionnels de santé, des juges et des parents qui très souvent décident ou prétendent décider à notre place, pour notre bien, qui parlent à notre place, qui réduisent nos problèmes à des problèmes purement médicaux et non politiques, alors nous remettons en cause les figures d'autorité reconnues par la majorité. 9. Comme tous les groupes dominants, les neurotypiques ont le privilège de pouvoir parler à la place des autres en étant mieux écoutés, de pouvoir s'exprimer sur ce qui ne les concerne pas. Ce privilège s'appuie sur le mythe de l'objectivité. Pour résumer, c'est l'idée que les personnes qui ne seraient pas directement concernées par une situation d'oppression, une situation d'oppression entre parenthèses, auraient plus de recul, de détachement, d'objectivité pour en parler que celles qui sont touchées. C'est faux puisqu'une situation d'oppression profitent aux oppresseurs, qu'ils ont des intérêts en jeu, et ne peuvent donc pas non plus être objectifs. Ce mythe de l'objectivité, dans d'autres domaines, justifie que les blancs parlent des autres, noirs, arabes, asiatiques, que les hommes cis parlent des femmes et des minorités de genre, que les bourgeois parlent des pauvres, que tout le monde parle des travailleuses du sexe et des femmes voilées sauf elles. Si vous ne me croyez pas, regardez qui s'exprime sur quoi dans les débats télévisés ou regardez dans une bibliothèque universitaire qui écrit des livres sur quel sujet. Donc oui, alors là, il y a le chapitre islamophobie qui est assez courant chez de nombreux et nombreuses militants et militantes. Bien sûr que les femmes voilées sont des personnes opprimées, mais elles intègrent le fait qu'elles soient voilées, c'est qu'elles ont intégré cette domination. Je referme la parenthèse, je continue. Alors, c'est aussi vrai pour les neurotypiques, surtout que dans ce cas, ils ont un argument supplémentaire pour se dire objectif. L'argument, nous, on est sains d'esprit et eux, non. Leur demander de nous laisser la parole sur nos propres vies, nos choix, nos causes politiques, c'est de remettre en cause leur objectivité et leur centralité. Si ce sont des professionnels ou des parents, on remet en plus en cause la légitimité qu'ils pensent à avoir à s'exprimer en tant qu'experts sur un sujet. Cependant, même des personnes parfaitement lambda se sentent légitimes à avoir un avis, malgré leur relative ignorance et manque de compréhension. Légitimes à avoir un avis à notre sujet. C'est un problème de manque d'humilité. Pourtant, en réalité, les personnes concernées, et donc les plus légitimes, sont les personnes neuroatypiques, pas les parents, pas les médecins. De plus, Leur demander de nous laisser la parole est souvent vécu comme une atteinte à la liberté d'expression. Comment ça, on n'est pas légitime pour parler d'un sujet ? On peut dire tout ce qu'on veut, surtout. Ce qui nous amène à 10, la liberté d'expression des propos psychophobes. Il y a une solidarité tacite entre les neurotypiques à ce sujet. Pour défendre toute personne qui fait de l'humour psychophobe, si on lui demande d'arrêter, notamment lorsque c'est Charlie Hebdo à propos des trisomiques. Petit règlement de compte ponctuel ici. Cela ne concerne pas que l'humour, mais aussi toute opinion psychophobe. Exemple de dialogue de ce type. Personne neurotypique numéro 1. Propos psychophobe sur l'autisme. Personne autiste. Ton propos est irrespectueux envers nous pour telle raison, merci de le retirer. Personne neurotypique numéro 2. Je suis d'accord avec toi, c'était irrespectueux, mais c'est son opinion, il a aussi le droit de s'exprimer, il faut respecter ça. Ce que la personne numéro 2 a fait, et de manière fourbe, c'est de faire semblant de prendre la défense de la personne autiste et de jouer la modération, tout en défendant en réalité la personne qui a tenu des propos psychophobes au départ. Voilà, la fameuse liberté d'expression. La solidarité implicite neurotypique, c'est ça. 11. Lorsque nous utilisons le mot neurotypique, souvent ça les met mal à l'aise. D'abord parce qu'ils ont l'habitude de se voir comme des personnes normales, intrinsèquement supérieures aux marginaux, fous, et qu'utiliser ce mot remet tous les groupes à égalité. C'est d'ailleurs son but. Ensuite, parce qu'ils ont l'habitude de se voir comme des individus isolés qui ne peuvent être responsables que de ce qui est le résultat direct de leurs actions personnelles. Encore que, même là, souvent, ils se trouvent des excuses. Or, nous, on les met face à leur appartenance à un groupe social, qui plus est le groupe social dominant, qui est à l'origine de la psychophobie, qui en a une responsabilité collective. Cela remet en cause leur individualité et leur innocence. 12, ah oui, il y a 16 points en tout. Cela leur est aussi difficile d'admettre une responsabilité collective indirecte par complicité silencieuse. Par exemple, dans un cas de harcèlement scolaire, ils préféreront se dire « Albert était méchant de faire du harcèlement comme ça, et nous on était innocents », plutôt que se dire « J'ai fait partie de la majorité silencieuse qui n'a rien dit, rien fait, donc Albert était le premier responsable, mais nous étions responsables aussi ». Eh oui, cela remet leur innocence et leur non-responsabilité en cause. 13. Les neuroleptiques... J'ai dérapé. Les neurotypiques, évidemment, sont encore plus mal à l'aise quand on les met face à leurs propres actes, gestes et paroles problématiques. Cela remet encore plus directement en cause leur innocence, puisque pour le coup, pas moyen de se cacher derrière le groupe ou derrière quelqu'un d'autre. 14. Le concept de privilège neurotypique, comme tous les privilèges, remet en cause la méritocratie, c'est-à-dire l'idée que les personnes qui ont des postes les plus prestigieux, les mieux payés, l'ont forcément mérité. Alors que souvent d'autres personnes qui ont été discriminées l'auraient autant mérité selon les critères de la société occidentale. Alors là, il évoque la démocratie, en fait. Bon. Les critères de la société occidentale. Bon, voilà, c'est pas toujours les. Enfin, ça dépend lesquels. Quoi. Voilà. L'idée de mérite par rapport au salaire, à la carrière, etc., est très contestable en soi d'ailleurs. 15. L'existence d'espaces non mixtes, explicitement politisés ou simplement communautaires, neuroatypiques, non mixte neuroatypique, remet en cause le droit des neurotypiques à entrer et s'exprimer partout, même s'il ne s'agit que d'un seul espace. De plus, ces espaces servent à mener des réflexions, actions autonomes, ce qui ne plaît pas non plus. 16. Lorsque nous préférons fréquenter amicalement ou amoureusement les nôtres, pour ne pas subir de micro-agressions répétées, ou pire, lorsque, pire encore, nous choisissons explicitement de ne pas sortir, ou nous marier, ou coucher avec des neurotypiques. Alors là, pour par exemple ne pas avoir à gérer une inégalités sociopolitiques dans notre vie amoureuse et privée pour avoir la paix. Alors là, par ce choix, nous allons contre l'injonction à sortir avec des neurotypiques. Parce qu'il y a donc une injonction à sortir avec des neurotypiques. Cette injonction va avec l'idée que nous avons besoin des neurotypiques pour notre bonheur, y compris intime, voire pour notre santé et notre équilibre. Avec aussi l'idée que les neurotypiques sont supérieurs, et donc un couple neurotypique-neuroatypique vaudrait plus qu'un couple neuroatypique-neuroatypique par la valeur ajoutée spécifique du neurotypique. Si on résume la fragilité neurotypique, la fragilité neurotypique se manifeste dès qu'on remet en cause leur innocence et leur non-responsabilité, leur individualité, leur centralité, leur sentiment de supériorité, leur domination au quotidien dans les rapports interindividuels, leur figure d'autorité reconnue, leurs normes et attentes sociales, leur liberté d'expression, de propos et gestes oppressifs, leur liberté de parler à notre place, en particulier les professionnels et les associations de patients, leur sentiment de sécurité, leur confort mental, leur sentiment de mérite, méritocratie. Tout ça, ça constitue une série de gratifications psychologiques dont les neurotypiques profitent, en général de manière inconsciente, du fait d'être le groupe dominant. Et lorsque un ou plusieurs de ces aspects est menacé, des anticorps sont déployés pour le défendre. Prenons trois exemples. On l'a vu plus haut, les personnes zèbres, simplement en existant, menacent le sentiment de supériorité des neurotypiques. Du coup, souvent, on les harcèlera, on les traitera d'intello, on les mettra à l'écart, on les accusera d'arrogance et de prétention, on leur inculquera l'idée que leurs besoins sont moins prioritaires que ceux des autres, on en fera des singes savants, on les accusera de mentir, de se dire surdoués par effet de mode ou pour se faire mousser, on leur fera faire le travail des autres sans contrepartie, que ce soit le travail des collègues, si adultes, ou des camarades de classe, sœurs, frères. Parfois, on les couvrira d'admiration hypocrite tout en attendant le moindre faux pas pour les faire tomber. Tout ça servant à les remettre à leur place socialement inférieure et donc à protéger le fameux sentiment de supériorité. Même un enfant zèbre qu'on traite comme un singe savant et dont on vante l'intelligence supérieure, finalement, on le met à une place inférieure. Un autre exemple plus évident, la réponse instinctive à la peur des fous, c'est de vouloir qu'ils soient internés, voire mis en prison. En tout cas, les envoyer ailleurs ou les neutraliser pour se sentir plus en sécurité, ou à défaut, les marginaliser autant que possible. Enfin, face au militantisme anti-psychophobie, qui, par définition, remet en cause la supériorité, la domination, l'innocence, les normes sociales neurotypiques, leur réponse est souvent d'essayer de changer de sujet, de parler de leur liberté d'expression, d'excuser ou minimiser les comportements problématiques, de parler à notre place pour garder le contrôle, de nous appeler à plus de modération pour nous faire taire, et plus généralement d'essayer de nous réduire au silence ou de noyer notre voix. Voire de prétendre qu'on se trompe et qu'on verrait de la psychophobie partout, à tort bien sûr, parce qu'on est fou, parano, qu'on comprend mal les choses, ce qui est nous prendre un peu pour détruites. Maintenant, revenons à ce dont je parlais plus haut, à savoir le besoin de lier la folie aux actes de violence pour protéger l'innocence des neurotypiques et d'autres groupes socialement dominants. La violence, la folie et l'innocence des personnes dominantes. La lutte contre la psychophobie implique également de lutter contre les stéréotypes voulant que les viols et agressions sexuelles, la pédocriminalité, le harcèlement sexuel de rue, les violences conjugales ou dans un autre domaine, les actes terroristes, soient l'œuvre de fous. Il est important pour la majorité des gens de croire que ce sont forcément des fous qui font tout ça, ou des pervers à la limite, ce qui est presque la même chose dans leur tête. Parce que sinon, ça forcerait à réaliser que ces actes peuvent être commis par des personnes normales et saines d'esprit. En fait, sont commis tous les jours par des personnes parfaitement dans la norme. Pour ce qui est du viol, il n'y a en réalité rien de plus ordinaire, du moins si on compte par exemple les personnes qui profitent de l'état d'ébriété de la victime pour en abuser, extorquent un oui par insistance lourde, abus d'autorité, chantage, abus de faiblesse, chantage affectif. C'est le résultat de la culture du viol, de la domination des hommes cis sur les femmes et les autres, des adultes sur les enfants et des autres rapports de domination. Et du fait qu'on s'habitue à voir des catégories de population comme des objets de fétiche sexuel, simplement pour ce qu'elles sont, femmes bi, lesbiennes, femmes trans, hommes trans, personnes non-binaires, personnes intersexes, personnes racisées, femmes d'Europe de l'Est, mineures, Pour ce qui est du terrorisme, tout type de personne peut également être impliquée. Ici, ce que j'appelle terrorisme, c'est toute action qui vise à tuer des civils pour terroriser une population ou qui, pour viser une cible précise, tue de manière massive des civils. Autrement dit, dans le terrorisme, j'inclus aussi les bombardements par les USA, la France, la Russie, l'Iran, menés en Syrie, en Irak ou par les USA au nord du Pakistan et au Yémen. Ou durant la Seconde Guerre mondiale, la destruction de Dresde, de Nagasaki et d'Hiroshima, du terrorisme. C'est du terrorisme, peu importe quel camp en est à l'origine, ce n'est pas le monopole des ennemis de l'Occident. Qu'elles soient commises par des États, des groupes armés, des personnes isolées, les atrocités n'ont jamais eu besoin de folie pour exister. Pour en revenir à nos moutons, contester les liens automatiques entre violences de tout type et troubles mentaux, c'est remettre en cause l'innocence automatique des neurotypiques. Car oui, présumer que seuls les fous font ça permet de présumer que les gens normaux ne font pas ça, logique. Et plus spécifiquement, cela protège certains groupes en particulier. Par exemple, concernant le viol et les violences sexistes, il est plus commode pour les hommes cis de penser que c'est une minorité de fous qui violent et bat leurs épouses. Cela leur permet de ne pas s'interroger dans leur rôle au sein de la culture du viol. Ne pas se demander « Est-ce que j'ai violé ? Suis-je susceptible de le faire ? Est-ce que mes amis, les hommes de ma famille, ont violé ? Est-ce que j'ai contribué à passer des viols sous silence ? Est-ce que j'ai encouragé le viol sans le vouloir par de l'humour sexiste ?» Sachant que c'est très très rare que la réponse soit non partout. Lorsque des masculinistes commettent des attentats, alors là, il reprend le mot attentat, par exemple Elliot Rogers qui a abattu des femmes à Isla Vista, c'est pratique de parler de folie parce que là encore, ça innocente le mouvement masculiniste et ses idées en particulier. Et la culture du viol, la complicité, au moins passive et silencieuse, de la majorité des hommes cis en général. Lorsque des personnes blanches d'extrême droite commettent des attentats, oui, je parle d'attentats pour des massacres à l'arme à feu commis par des masculinistes ou des suprémacistes blancs, le mot attentat n'est pas réservé aux islamistes, réels ou présumés, et lorsque des drones tuent des familles parce que ça pourrait être des combattants ennemis et dans le doute on tire, comme au nord du Pakistan, donc on était en 2016, oui, c'est du terrorisme en col blanc. Donc je continue et je termine parce qu'on a dépassé un petit peu l'horaire de l'émission. Lorsque des personnes blanches d'extrême droite commettent des attentats, parler de folie permet d'innocenter l'extrême droite en particulier et la complicité silencieuse de la majorité blanche en général. Car oui, nous sommes collectivement responsables de la suprématie blanche, de l'islamophobie, de la négrophobie, de la romophobie, de l'antisémitisme qui amène une poignée d'entre nous à tuer. Alors, on peut résumer le tout par racisme, tout simplement. Hein. Et comme ce sont des attentats commis par des personnes musulmanes ou présumées musulmanes arbitrairement du fait de leurs origines, lorsque ce sont des attentats commis par des personnes musulmanes, c'est également plus facile d'en accuser l'islam, la culture musulmane et la folie, plutôt que de nous poser des questions. Alors là, c'est pareil, je ferai une petite aparté, un petit aparté. Oui, on peut en accuser l'islam et la culture musulmane sans en accuser la folie. Voilà, je ferme la parenthèse. Par exemple, sur les guerres impérialistes de nos pays au Moyen-Orient ou sur les conséquences du racisme et de la pauvreté en Occident. L'attentat d'Orlando dans un bar LGBTQ qui a tué beaucoup de personnes trans et homo, latino et noir, était le résultat de l'homophobie, de la transphobie, de la latinophobie et de la négrophobie systémique. Dans tous les cas que j'ai cités, le lien violence-folie permet donc de protéger à la fois l'innocence neurotypique, l'innocence blanche, l'innocence des hommes cis, l'innocence des élites bourgeoises. Du coup, quand nous remettons cet amalgame en cause, nous touchons à tout ça en même temps, ce qui explique pourquoi ce message est si difficile à faire passer. Fin de ce coup de gueule, grand coup de gueule, donc de Troll de Jardin du 21 août 2016, tiré de la brochure « Qu'est-ce que la psychophobie ?» Eh bien, peut-être juste avant de vous dire au revoir, une annonce, allez, vite fait. Conférence art, création, créativité et santé mentale, les arts visibles à Villeurbanne, 22 mai 2023. Donc il y aura une table ronde au Palais du Travail de Villeurbanne le 22 mai 2023 de 18h à 20h à destination des professionnels et du grand public autour de la thématique de la créativité et de ses relations avec la santé mentale dans le cadre de la Semaine des handicaps de Villeurbanne. Bon, voilà, c'est une petite annonce. Il y a aussi ailleurs en France d'autres événements. Du 23 avril au 3 mai, festival sur la norme et les folies à Saint-Étienne. Nous organisons symphonique et siphonée, un festival sur la large thématique des folies à Saint-Étienne, en partenariat avec pas mal de monde et notamment trois groupes d'entraide mutuelle, J'aime. Des spectacles, des concerts, des rencontres, notamment une écoute collective de Barge, 10 ans de vie en son, l'adaptation radiophonique de Barge de Héloïse K par Mayday, une rencontre avec 13 autour de son récent livre Charge, j'ouvre le huis clos psychiatrique, des films et témoignages, etc. Alors, symphonique et siphonée, du 27 avril au 3 mai 2023. La Laverie installe un chapiteau place Chavanel pour y répandre un vent de folie, de la folie créative, celle qui nous pousse en avant, à la folie qui stigmatise celles et ceux qui souffrent de troubles psychiques. Une vaste programmation vient naviguer entre ces différentes facettes. D'un orchestre symphonique décalé à un opéra de canard en plastique, en passant par un clown caustique interné et habité, des concerts et spectacles d'art de la rue vous invitent à une expérience hors norme, pleine d'humour, de poésie, de danse et de transe. Projections, rencontres, ateliers, lectures sont également là pour rebondir sur ces questions dans un village éphémère installé autour du chapiteau. Et ailleurs en ville, jusqu'au 3 mai, s'amuser, discuter et s'affranchir de la norme, un pari fou mais pas si délirant. Et c'est donc entrée à prix libre. Enfin, participation de soutien, quoi. Donc c'est à Villeurbanne, du symphonique et siphonné, du 27 avril au 3 mai. Ainsi termine l'entonnoir pour cette semaine. Salut.